Entre la mairie et les étangs. Faut pas oublier, entre la mairie
c'est
et
un
les
spectacle
étangs.
De rue. Merci beaucoup Olivier d'être Merci. Passé par notre micro. Rendez-vous le 4 et le 5 à Danville. Nous, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cool.
Merci JC.
Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est midi à Paris, 10h en temps universel. Le journal tout de suite avec vous, Gilles Moreau. Gilles, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, avec 17 morts et plus de 80 blessés, le bilan des dernières attaques russes sur Kiev s'alourdit. Selon son maire, la capitale ukrainienne vient de connaître la vague d'attaques la plus massive depuis le début de l'invasion russe en 2022. Le bilan s'aggrave aussi au Venezuela, 8 jours après le double tremblement de terre. Actuellement, des centaines de sauveteurs tentent d'extraire un homme coincé depuis 8 jours dans les décombres. En France, alors qu'un nouvel épisode caniculaire se profile, le Premier ministre préside à Marseille une nouvelle réunion interministérielle de crise. Avec la sécheresse, le sud de la France est frappé d'un risque très élevé d'incendie. À la Coupe du monde de football, immense déception de la RDC et du Sénégal, éliminés tous les deux après avoir frôlé l'exploit. Un deuil national d'une semaine commence au Venezuela en hommage aux victimes et sur décision de la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Le dernier bilan du double séisme du 24 juin s'établit à près de 2300 morts, 11 000 blessés et des dizaines de milliers de disparus. 8 jours après, trouver des victimes encore en vie dans les décombres relève du miracle. Alors qu'il est, les sauveteurs essaient d'extraire un homme coincé depuis 8 jours sous les gravats. Outre la semaine de deuil national, Delcy Rodriguez a aussi promis une réponse rapide du gouvernement vénézuélien pour aider les sinistrés. Comment la population reçoit-elle ce message? Mélissa Barra, vous êtes sur place pour RFI avec Jade El Khoury.
Alors que cette période de deuil national vise à souder le pays dans la douleur, dans la résilience, au-delà des clivages politiques, beaucoup y voient une manière de noyer le poisson. Nous l'avons vu ces derniers jours, les autorités ont été dépassées par les événements, incapables de mener efficacement les opérations de secours ou de loger les sinistrés. Le relogement, c'est précisément l'un des points les plus critiqués. Il y a 50 centres d'accueil, mais pas la capacité d'héberger 12 000 déplacés. De très nombreuses familles se retrouvent à dormir dans des parcs ou sur des ronds-points, sous des tentes ou directement exposées aux intempéries. Lundi, un violent orage a frappé la région. Delcy Rodriguez a annoncé la création d'une commission présidentielle pour accélérer la réhabilitation puis la reconstruction des habitations. Mais un photographe nous le disait encore tout à l'heure, il y a des zones de La Guaira à l'intérieur des terres que les secours n'ont même pas encore atteintes. Alors quand le gouvernement annonce avoir, je cite, ordonné de passer à la vitesse supérieure, les habitants s'interrogent, d'autant plus que toute la réponse humanitaire repose en ce moment sur l'aide internationale et la solidarité.
Mélissa Barra, envoyée spéciale de RFI au Venezuela avec les moyens techniques de Jade El Khoury. C'est son maire Vitali Klitschko qui l'affirme. Kiev, la capitale ukrainienne, vient de connaître l'attaque russe la plus massive depuis le début de l'invasion 2022. Les tirs de missiles et de drones lancés tôt ce matin ont fait, selon un bilan provisoire, 17 morts et plus de 80 blessés. Des étages entiers de bâtiments résidentiels ont été détruits. Le président Zelensky a réagi en réclamant plus de soutien des alliés de l'Ukraine pour sa défense antiaérienne. En particulier, il réclame une licence américaine pour pouvoir produire les missiles Patriot. Parallèlement, la Russie poursuit sa politique de rupture avec ses voisins européens. Elle vient de fermer 7 postes frontières ferroviaires avec la Finlande, l'Estonie et la Lettonie. Cette fermeture intervenue sans explication officielle bloque le transport de marchandises. Le Kremlin chercherait avant tout à accentuer sa pression économique sur l'Union européenne. Sofia Katsenkova et Abla Jounaïdi.
Aucune justification clarification, aucun calendrier de réouverture. Moscou fait régner le flou sur cette fermeture de 7 postes frontières ferroviaires. 5 sont situés à la frontière finlandaise, 1 en Estonie et 1 en Lettonie. Pour Arkady Moshes, directeur de programme pour la Russie et l'Europe de l'Est à l'Institut finlandais des affaires internationales, cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large de rupture des échanges avec les pays européens.
Je pense qu'il s'agit là d'un facteur supplémentaire dans le processus visant à rompre les liens économiques entre la Russie et les pays européens. Et cela s'inscrit probablement dans le cadre des pressions économiques que la Russie exerce sur la Finlande et sur les pays baltes.
Les engrais azotés, dont la Russie est le premier exportateur au monde, pourraient être au cœur de cette décision, selon le chercheur.
Je pense que la raison doit être très pragmatique et économique. Et la seule raison que je vois, c'est que la Russie n'est plus intéressée par l'exportation d'engrais vers ces pays, ni peut-être via ces pays.
Pour Arkady Moshes, cette fermeture relève aussi d'une logique de représailles face aux sanctions européennes qui accablent l'économie russe. Une manière pour Moscou de reprendre l'initiative en jouant sa dernière carte.
Au Moyen-Orient, les médiateurs Qatar et Pakistan annoncent que les négociations entre Iraniens et Américains, que ces négociations reprendront dans les plus brefs délais après les funérailles samedi prochain de l'ayatollah Ali Khamenei. C'est pour parler indirect concernant en particulier le dossier du nucléaire iranien et aussi ce que Téhéran attend par-dessus tout, la fin ou à tout le moins l'allègement d'un certain nombre de sanctions. Nicolas Falaise.
Le Qatar, l'un des pays médiateurs, a la main sur plusieurs milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés, une partie des sommes que Téhéran espère recevoir en échange de concessions sur son programme nucléaire. Selon le chercheur Clément Terme, spécialiste de l'Iran, c'est l'un des nœuds les plus complexes de la négociation entre les États-Unis et la République islamique.
Il s'agit d'obtenir le dégel de ces fonds sans condition, c'est ça l'objectif de la République islamique. Et du point de vue américain, l'objectif, c'est de maintenir les prix du pétrole bas jusqu'au mid-terms, en reportant au plus tard possible le dégel des fonds pour ne pas avoir à faire face au Congrès, puisque certains des soutiens du président Trump ne sont pas favorables à ce dégel des avoirs iraniens. Donc, des deux côtés, il s'agit de gérer les contraintes politiques internes.
Aux États-Unis comme en Israël, les partisans de la manière forte contre l'Iran n'avaient pas digéré l'accord nucléaire de 2015, car à l'époque, il avait permis à Téhéran de bénéficier de la levée des sanctions. Asphyxiée économiquement, la République islamique a aujourd'hui un besoin urgent de rentrée d'argent, mais seul un nouvel accord nucléaire permettra le dégel des sommes bloquées dans des banques étrangères.
Et l'Iran précise qu'il utilisera une partie de ses avoirs gelés au Qatar pour acquérir des produits dont il a besoin. Midi 7 ici à Paris, dans l'actualité économique, une amende record confirmée en Europe pour Google. La Cour de justice de l'Union européenne a rejeté l'appel du géant du numérique contre l'amende de plus de 4 milliards d'euros infligée par Bruxelles. C'était en 2018. Google a été condamné pour abus de position dominante dans l'écosystème des téléphones mobiles, en particulier le système d'exploitation Android. En France, alors qu'un nouvel épisode caniculaire se profile, le Premier ministre Sébastien Lecornu préside aujourd'hui à Marseille une nouvelle réunion interministérielle de crise. De son côté, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale dénonce, je cite, l'impréparation du gouvernement face à cette canicule. Et les écologistes entendent déposer une motion de censure dans l'espoir de faire tomber ce gouvernement. Selon une députée, la motion sera déposée cette semaine pour être examinée la semaine prochaine. Dans les couloirs de l'Assemblée, certains élus dénonce, je cite, une manœuvre politicienne. Sur place pour RFI, Victorien Villaume.
Dans une période assez peu porteuse pour les écologistes, fronde interne contre la secrétaire nationale, projet de primaire qui semble voué à l'échec, la canicule leur a redonné de la visibilité. Mais cette motion de censure découle d'une démarche très politicienne, dénonce la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Le député du Bloc central, Frédéric Valletoux, est sur la même ligne.
Ça n'a aucun sens, on ne va pas renverser les gouvernements, parce que pendant 10-15 ans, on a pris du retard dans l'ajustement de notre société à ces épisodes-là.
Concrètement, pour que Sébastien Lecornu tombe, il faudrait qu'en plus des écolos et de LFI, le RN et le PS votent la censure, ce qui semble bien mal embarqué. La députée socialiste Estelle Mercier.
Ce qu'on voit comme signal le groupe écologiste, à mon avis, a beaucoup de sens. Pour autant, je ne suis pas sûre que l'outil motion de censure soit le meilleur outil actuel.
Les écologistes se défendent de tout calcul politique et parlent de l'incompétence du gouvernement. gouvernement. Sandrine Rousseau.
Quand on a été à ce point-là absent d'un épisode où tous les Français, je crois pas qu'il y ait un seul Français qui n'a pas souffert de cet épisode de canicule. La responsabilité d'un gouvernement peut être engagée.
Mais le bien fondé de cette démarche fait débat, y compris dans les rangs des Verts. Je ne suis pas favorable aux motions de censure paresseuses, confie une élue du parti de Marine Tondelier.
Reportage de Victorien Villaume du service politique. Enfin, un coup d'œil au match du jour à la Coupe du Monde de football. 3 matchs pour le compte des 16e de finale, toujours. Espagne, Autriche et la nuit prochaine, Portugal, Croatie. Enfin, Suisse, Algérie. Les derniers matchs ont été marqués par l'immense déception des sélections africaines et de leurs supporters. La RDC et le Sénégal éliminés respectivement par l'Angleterre et par la Belgique après avoir été tout près de l'exploit. Voilà, et tout de suite, 8 milliards de voisins avec vous, Emmanuel Bastide, bonjour.
Bonjour Gilles Moreau, prochain journal dans 50 minutes et chez 8 milliards de voisins, nous parlons éducation comme chaque semaine. Comment faire face à la violence scolaire à Mayotte?
Together Production, World Tour Records, Jaspire Prod et RFI Talent présente Lovana en concert.
Why are you so scared? Go to that place, Sierra Mountain Top. Slow your foot pace. Roll down the street with options. You wonder, you pay for this time of indecision. Why are you so scared? Go to that place, Sierra Mountain Top. Slow your foot pace. Flow down the street with options. You wonder, you pay for this time. Why are you so scared? Go to that place, Sierra Mountain Top. Slow your foot pace. Float down the street with options. You wonder, you pay for this time of indecision. You stumble, you fade.
musique a une importance capitale. Une chanson plaît surtout en fonction de sa musique.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4 dans le sud de l'Eure 95.9.
Dans le truchement de la musique, on apporte dans l'oreille des gens ce qui habituellement ne devrait pas y être admis, n'est-ce pas? C'est un truc, c'est ce qu'on appelle de l'art.
Principe Actif, le mix des cultures.
Rayon de soleil terne contre la tempe, me braque dès l'aube. J'inhale une tasse, Oxygène sale dans les parages, brume dans les yeux, esprit mafieux dans le casque en guise de paraf. Effluve de chair, pas de sentiment, animal réflexion, étreinte d'amour, ne tolère pas de rétribution. Je visionne quelques mirages, un billet de 50 balles, besoin vital d'un cœur de glace avec les blancs de Nacho Vidal. L'art de se noyer n'est pas breveté, alors je surnage avec panache. Au-dessus du seuil de pauvreté, je refais les comptes, combinaison d'erreurs, aiguille de blanc, les petites enfances t'engendre pas de futur trader. Gros pilon d'amnésia, je replonge dans une inertie profonde, aussi simplement que la lumière produit l'ombre. Sombre couloir de séquelles, où les peines ne sont jamais prescrites, loin des sunlight et des dead fraises, mes rêves connaissent le verdict. Chaise électrique, chaise électrique,
chaise électrique,
loin des sunlight et des dead fraises,
chaise électrique,
mes rêves connaissent le verdict. L'espoir s'efface, y'a plus de recours en grâce, inhale une dernière taffe avant que le truc s'embrase.
Chaise électrique,
les rêves tapinent, le crime t'appelle.
Chaise électrique,
sentence suprême, capital peine.
Je n'ai pas choisi ce couloir, c'est la nature est sélective. Ma parano latente aurait fait de moi un vrai détective. Je n'étais bon dans l'esquive, on m'a claqué depuis. Du vrai sans récidive, tout s'est troublé, j'ai souillé le puits. Je refoule des larmes de dépit, comme une arme de détruit. Je me suis fait tant de grandes idées, malheureusement le monde est petit. Et moi je suis quoi, je suis cuit. Quand le grand chef paye sa fournée, on fuit dans la fournaise, entouré de rêves qui ont mal tourné. Va faire des dessins de vie quand elle t'a fait les doigts au marteau. Ou plutôt trop frustré, je me suis pété les poings dans le placo. Tequila, tabaco pour nous éloigner du gâteau. Même ça fait ta pâte à part, zonard, charclo en starco. L'usine, la résine, la rue, la ruse et les rustines. Parti ça des mauvais pneus, tu maîtriseras l'art du drifting. Mouille-moi la tête et branche ton truc, je connais la suite. À l'aise comme on peut l'être sur une chaise électrique.
Ouais. Mouille-moi la tête, branche ton truc, je connais la fin.
Chaise électrique,
dernier massage crânien.
Chaise électrique,
mes rêves sont d'or, j'ai déjà loin. L'espoir s'efface, y'a plus de recours en grâce. Inhale une dernière taffe avant que le truc s'embrase.
Chaise électrique,
les rêves tapinent, le crime t'appelle.
Chaise électrique,
sentence suprême, capital peine.
On m'a jugé avant que viennent me chercher les Schmitt. Dévisser le coup des fausses idées ou du moins chasser le speed. Je crois que la vie m'a jugé sur un siège éjectable sous menace de peine capitale. Toujours entre ciel et chétan, le monde m'a trop chauffé l'esprit. Que Dieu me pardonne, c'est vrai qu'au lieu de brûler des cierges, fais des tailles. Depuis l'époque où Joe Dalton chassait les skins, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire que j'enchaîne et destine. Ça sent la poudre dans ma chair et ses tripes. Parcours glissant à ne pas suivre à moins de chausser les skis. Système visant un trait de richesse électif pour tes élitistes cherchant que de moi-même j'en vienne à achever l'estime. Trajectoire hors piste comme toute jeunesse et ses crises. Qu'importe le verdict, qu'on en finisse une fois pour toutes. Je veux plus attendre mon tour sur la chaise électrique. Et surtout ne plus entendre ce bruit des chaînes sur les grilles.
Who floats far above?